Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. La pandémie n'est pas terminée, loin s'en faut, les bilans d'étape se poursuivent avec cette question pour l'heure sans réponse. Y aura-t-il un retour à l'avant ou plutôt un changement relatif ou radical? La manifestation la plus voyante de la pandémie fut en de nombreux endroits la disparition du tourisme, secteur économique qui représente 10% du PIB et des emplois dans le monde. La pause n'est pas totalement terminée. L'Union européenne excluait il y a quelques jours les États-Unis d'une liste des 15 pays auxquels elle acceptait de rouvrir ses frontières. Mesure qui frappe également le Brésil et la Russie, et ce alors que des pays tels que la Grèce, le Portugal, l'Italie ont une économie très dépendante du tourisme et que les estivants américains représentent une part particulièrement importante de ce secteur. Comment allons-nous repenser le tourisme et beaucoup d'autres domaines de nos activités? Qu'est-ce qui demeurera ou devra être changé? L'effondrement économique mondial pourra-t-il être évité sans sacrifier l'écologie? Un système multilatéral international pourra-t-il être refondé? L'Europe va-t-elle se réveiller, travailler sur son manque d'unité, se montrer moins hésitante et affirmer sa position sur la scène internationale dans un contexte où la relation transatlantique est particulièrement mise à mal? Le monde parviendra-t-il à réussir sa sortie de crise? Nos invités. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, son dernier livre « Et après » qui vient de paraître aux éditions Fayard. Bonjour.
Bonjour.
Et Pascal Boniface, directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques et enseignant à l'Institut d'Études Européennes de l'Université Paris 8. Son dernier ouvrage « Géopolitique du Covid-19, ce que nous révèle la crise du coronavirus » aux éditions Erol. Bonjour.
Bonjour.
Beaucoup de choses ont été dites à propos de la crise que nous traversons. On évoque la fin du modèle occidental. Les occidentaux sont désormais au même niveau que le reste du monde et non plus au-dessus. Quelles leçons en tirer? La Chine serait la grande gagnante de la situation, la Covid apparaissant comme un accélérateur de puissance. Pour ce qui est de la relation Chine-États-Unis, elle est aujourd'hui empreinte d'une rivalité inégalée, avec en prime une Chine de plus en plus souvent présentée comme une menace pour nos démocraties, de façon radicale aux États-Unis et de plus en plus insistante en Europe. On annonçait la fin des frontières, les voilà redressées partout. Quant au multilatéralisme, il a été le grand absent de ces derniers mois. Parviendra-t-il à renaître? La crise de 2008 n'a en son temps pas servi de leçon. Qu'attendre de celle dans laquelle nous nous trouvons? L'américain Henry Kissinger a déclaré que la pandémie allait modifier à jamais l'ordre mondial. Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, craint que ce ne soit pire qu'avant. Comment chacun vous situez-vous, Hubert Védrine?
Alors, en ce qui me concerne, je pense qu'il y a d'un côté toute une série d'observations que vous avez reprises dans votre question sur l'état du monde. C'était déjà le cas avant. Le fait que les Occidentaux aient perdu le monopole du pouvoir, pas l'influence, mais le monopole. Le fait que les émergents aient finalement émergé, et notamment le mastodonte chinois. Tout ça, c'est vrai avant. Vous n'avez pas parlé des convulsions gigantesques au sein de l'islam entre une micro-minorité contre l'ensemble des autres. C'était déjà le cas avant. Les hésitations des Européens qui ont toujours un peu peur de devenir une vraie puissance, ce qui n'est pas forcément lié à l'intégration, c'est un autre sujet, mais on les connaît depuis des années et des années. Donc il me semble que sur le plan géopolitique, la pandémie aura été, qui n'est pas finie, faudra en tirer des leçons méthodiquement, hein, sur ce qu'ont fait les uns et les autres, pas des règlements de compte, des leçons. Elle n'est pas finie, vous voyez, les États-Unis, l'Amérique latine, etc. Et c'est un crash test, et ça on pouvait le dire avant. Moi j'ai dit ça déjà dans une interview au Figaro fin mars. Donc c'est pas lié à la pandémie, mais ça révèle à tous ceux qui étaient un peu encore idéalistes sur la communauté internationale, l'ordre mondial, etc., la réalité des choses.
Un électrochoc en quelque sorte.
Alors c'est à la fin un électrochoc, mais dans le mot électrochoc, il y a pas l'histoire de la vision. Enfin, les joueurs voient plus clairement ce qu'il en est. Ça provoque évidemment un moment un peu déprimant pour les gens qui avaient du mal à voir cet état réel du monde qui a été décrit depuis très longtemps.
Donc, alors c'est pas déni ou cécité, la question est intéressante.
Donc,
aussi.
Donc je dirais pas, comme Kissinger, moi je pense pas que ça change. Ça révèle, c'est encore plus brutal, l'affrontement sino-américain va dominer les prochaines décennies. Donc non, c'est pas ça. En revanche, il faut s'interroger sur pourquoi une pandémie mondiale prévue depuis des années, par la CIA, par tous les livres blancs sur la défense et la sécurité, par Bill Gates, etc. Pourquoi c'était inaudible par, en gros, les Occidentaux, les pays développés, les classes moyennes supérieures qui veulent pouvoir circuler sans arrêt, faire comme ils veulent. Bon, il y avait une série de leçons à tirer qui n'étaient pas acceptable. Donc c'est deux choses différentes, et je dissocierai, dans la suite de nos échanges, la dimension proprement géopolitique et d'autre part toute la dimension sanitaire, globale, écologique, et moi ce que j'appelle donc la réponse, l'écologisation. Mmh. Pour moi c'est un peu différent.
On y reviendra bien évidemment. Pascal Boniface.
Oui, effectivement, avec Hubert Védrine, on n'a jamais cru à la fin des États, à l'obsolescence des États dans l'action internationale, ni que la mondialisation avait effacé les frontières ou avait rendu obsolète la notion de territoire, comme certains le disaient. Et pour autant, la crise du Covid-19, elle a rétabli les frontières de façon brutale, mais pas de façon définitive. On reviendra, vous parliez du tourisme, le tourisme est à l'arrêt, il va revenir par la suite. Et effectivement, je partage l'option d'Hubert Védrine, et à l'inverse de Henri Kissinger, je crois que toutes les tendances structurelles géopolitiques qui sont à l'œuvre existaient déjà avant la crise du Covid-19, mais cette crise les a cristallisées, les a renforcées, notamment, par exemple, l'affrontement entre la Chine et les États-Unis, ça existait déjà. Mais la façon dont Donald Trump a voulu gérer la crise, et puis surtout le fait que ce qui existait déjà est apparu de façon éclatante aux yeux de tous, que la Chine rattrapait les États-Unis, que la Chine, qui faisait 10% du PIB américain lorsqu'elle a rejoint l'OMC en 2001, en fait désormais 65%. Pour réaliser ce que ça veut dire, c'est qu'au temps de la guerre froide, lorsque l'URSS rivalisait avec les États-Unis, le PIB soviétique n'était que de 40% du PIB américain. Et donc c'est une source d'angoisse majeure, et les Américains, qui ont quand même vu des fosses communes à New York, et les fosses communes, on les voit normalement dans le tiers-monde, pas à New York. Et donc il y a eu un effet de sidération des États-Unis, qui ont vu que leur système n'était pas aussi performant qu'ils ne le pensaient et qui ont vu que la Chine accélérait son rattrapage. Et donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et effectivement, là encore, je rejoins Hubert Védrine, la façon dont se nourra la relation entre la Chine et les États-Unis est certainement le facteur stratégique le plus important dans les années qui viennent.
Alors, Hubert Védrine, vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord avec ce que Henry Kissinger disait à propos de la pandémie, qu'elle allait modifier à jamais l'ordre mondial. Je citais Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, qui craint que ce ne soit pire qu'avant, l'après, donc pire qu'avant. Vous partagez ?
Oui, je l'ai dit, je suis d'accord. Alors, c'est rare que je sois en désaccord avec Kissinger, en tout cas sur le plan analytique, c'est quand même un esprit supérieur, exceptionnel, mais là j'ai une vision différente. Ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian, oui, je suis d'accord, oui. Mais c'est une situation qui existait avant, on la voit mieux. Mais ça fait quelques années, regardez, Trump a abandonné le baratin international habituel, il a arrêté de faire croire qu'il prenait des décisions dans l'intérêt de l'Alliance ou des alliés ou du monde, etc. Bon, cette espèce de brutalité était déjà là. Et là, le bras de fer sino-américain qu'on évoque là, Pascal et moi, il est évident depuis Xi Jinping, surtout depuis le deuxième mandat et la route de la soie, qui sont l'équivalent de la route des Indes britanniques puissance 10. Et c'est évident depuis la réponse de Trump, on est installé là-dedans. Donc en effet, tout ça se voit mieux en termes géopolitiques. Alors après, la question, ça sera du coup, qu'est-ce qu'on fait, quoi ?
Alors, tout ça se voit mieux. Je vous ai posé la question dans votre réponse à la première question. Nous avons vécu dans quoi, Hubert Védrine ? Dans un déni ou dans une cécité ?
Alors, ça dépend qui est on. Parce qu'il y a des tas de peuples dans le monde qui se sont pas fait d'illusions particulières. Mais c'est vrai qu'à la fin de l'URSS, les Occidentaux globalement, les Américains sur un mode un peu arrogant et triomphaliste, et les Européens sur un mode idéaliste sympa, ce que j'appelle les bisounours, vous voyez, depuis longtemps, on s'est dit c'est la fin de l'histoire. Et les Européens étaient sur la thèse de Fukuyama, avant Fukuyama en fait. C'est la fin de l'histoire, on a gagné. On a gagné, nos valeurs sont universelles, c'est évident maintenant, elles vont se propager, et s'il y a des récalcitrants, ils seront marginaux, et on va les faire changer en leur faisant des sermons, si ça suffit pas des sanctions, si ça suffit pas des interventions, si ça suffit pas des bombardements. Il y a une phase d'hubris. Encore une fois, puissance du côté américain, et les Européens ont toujours du mal avec la puissance, donc ma formule mais ancienne, ce qui montre que le phénomène est ancien, c'était les bisounours dans Jurassic Park, vous voyez, ça c'était les Européens. Donc quand on dit on, votre question est très juste, elle s'applique spécialement aux Européens. On serait pas en train de dire ça si on était dans une radio chinoise, vous voyez, ou même en Afrique, où les gens sont moins dupes de tout ça. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué pour les Européens, ils s'en fait tellement d'illusions, et les Français aussi, qui sont même en plus tellement chimériques, qu'ils tombent plus de l'armoire que les autres. Mais maintenant, c'est acquis, c'est connu. Donc il faut dépasser ça et se demander ce qui doit être fait aux différents niveaux. national, européen, etc. Mmh. etc.
Alors, complément, Pascal Boniface, sur ce que vient de dire Hubert Védrine, sur le déni ou la cécité. Et après ça, on passera à ce qu'il faudrait faire et ce qui vous a le plus surpris dans la gestion de la crise, Pascal Boniface.
Ah oui, effectivement, on était pris de court parce qu'on se voyait plus beau qu'on était. L'Occident pensait que, comme il a dominé le monde pendant 5 siècles, il pouvait continuer et qu'il était à l'abri. Lorsque la crise sanitaire a éclaté en Chine et que des millions de Chinois étaient confinés, quelles ont été les réponses dans les différents débats qui nous agitaient en janvier, février? C'est oui, ils confinent les gens, c'est normal, c'est une dictature. On n'a pas pensé qu'il y a un problème sanitaire. Et puis, quand on s'est aperçu qu'il y a un problème sanitaire, on pensait qu'on n'était pas concerné. Parce que les pandémies, c'est l'Afrique, c'est l'Asie. Et donc, on se croyait au-dessus, sans peut-être, enfin, faire une comparaison un peu audacieuse, je dirais que la crise du Covid-19, ça a été une sorte de juin 40 sanitaire. C'est-à-dire qu'en juin 40, le pays qui avait la première armée du monde s'est effondré en 3 semaines. Et là, tout d'un coup, alors qu'on se croyait un peu les maîtres du monde et à l'abri des grandes pandémies, ben, on a eu des hôpitaux débordés en Europe et des fosses communes à New York. Donc effectivement, on s'est aperçu qu'on n'était pas au-dessus des autres et qu'il fallait regarder les autres nations, non pas de haut, mais à hauteur d'homme. Parce que les autres ont aussi un message à faire passer et qu'il est temps de réaliser qu'on ne peut plus diriger le monde comme on l'a fait et que cette faiblesse qui était celle de notre système de santé a été vue dans le reste du monde. Regardez les leçons qu'on a fait à l'Afrique en disant ça va être terrible, l'Afrique ne va pas s'en sortir, etc. En fait, le bilan pour l'instant sanitaire en Afrique est quand même tant moins grave qu'en Europe et les Africains ont bien vu cela. Et effectivement, par rapport à l'optimisme pessimisme, quand on condamne la diplomatie du masque des Chinois, bien sûr, ils font de la communication, bien sûr, ils font de la propagande, mais du côté africain, ben, ils voient une chose, c'est que les Chinois sont là, que les Américains ne sont pas là, et heureusement que les Européens sont là également.
Hubert Védrine, l'Afrique, elle s'est montrée plutôt résiliente dans cette pandémie. Elle est aujourd'hui demandeuse de partenariat plus que d'aide. À l'évidence, il nous faut changer notre logiciel.
Alors d'abord, on l'a déjà changé 36 fois, mais d'autre part, le terme Afrique est peut-être trop global. Faudrait distinguer, la question n'est pas la même selon qu'on parle de l'Égypte ou de l'Afrique du Sud ou, vous voyez, du Ghana, de l'Éthiopie, il y a quand même plus de 50 pays. Ce qui est évident, c'est que la majorité des pays d'Afrique aujourd'hui, même ceux qui sont liés historiquement à la France, ne demandent pas spécialement de l'aide. Certains le demandent parce qu'ils n'ont vraiment rien. Mais tous ceux qui existent sur un plan économique et financier international hésitent à demander l'aide aujourd'hui parce que ça dégrade leur image. Parce qu'ils ont besoin d'investissements normaux. Mais quelques-uns le demandent, parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais enfin, l'approche française de l'Afrique a été renouvelée, à mon avis, de nombreuses fois, quasiment à chaque président. Rappelez-vous le grand discours de la Baule de François Mitterrand, mais il y a eu d'autres changements depuis. Et je dirais que là, contrairement à ce qu'il a raconté en France, à Paris notamment, la politique française en Afrique était plus souple et plus pragmatique et plus évolutive que la plupart des autres politiques en Afrique. La politique chinoise en Afrique, c'est une politique coloniale archi-classique. Et il y a les politiques de tous les autres, les Turcs, les Israéliens, les Qataris, les Brésiliens, les Indiens, etc. Donc je suis en désaccord avec ce qu'on dit en général sur la politique française en Afrique, qui était peut-être vrai il y a 20 ou 30 ans, mais qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors après, il faut faire du sur-mesure par rapport à ce que demandent les Africains eux-mêmes, mais c'est vrai que ça tourne toujours autour de notions de partenariat. Cela dit, mon conseiller Afrique, de l'époque où j'étais ministre, qui est un très très bon connaisseur de tout ça, Georges Serre, m'avait dit dès le début, contrairement à ce qu'on raconte en plaquant des schémas européens sur le nombre de lits de réanimation en Afrique, ça va sans doute se passer moins mal, parce que la population est plus jeune, parce que les gens ont déjà eu, c'est triste à dire, mais plein de maladies auxquelles ils ont survécu, il y a une sorte de résistance, parce qu'il y a énormément de gens qui quittaient les grosses agglomérations pour repartir dans les villages où ils peuvent se nourrir dans des conditions plus saines. Et dès le début, donc en avril, il m'avait dit le pays le plus menacé par ce qui se passe, c'est l'Afrique du Sud, parce qu'ils ont justement une structure plus moderne en termes économiques. Et leur agriculture est une agriculture d'exportation. Donc il n'y a pas toutes les petites fermes et tous les trucs. Ce qu'il m'avait dit dès le début, en ajoutant le fait que c'est surtout des jeunes, et bon, et quand il y a des personnes âgées en Afrique, ils sont pas regroupés dans les mêmes endroits. Ils sont dans les familles, donc il n'y a pas les foyers de propagation. Mais ça ne veut pas dire que l'Afrique n'a pas de problème. D'abord, ils ont tous les problèmes d'avant. Et puis eux-mêmes, ils sont en train de travailler, selon les pays, sur comment passer à l'étape suivante. Mais pour revenir à la discussion initiale que vous avez lancée sur l'approche de Kissinger, ça change pas tellement ce qu'on aurait pu dire déjà avant, quand on était attentif à l'Afrique telle qu'elle était. Déjà avant, vous voyez, à mon avis.
Pascal Boniface, un commentaire sur la question africaine, et après ça, là aussi, on abordera le monde de demain.
Ce qui est important aussi, c'est de voir que l'Europe s'est mise aussi en marche pour avoir un plan pour l'Afrique, à l'instigation de la France, pour ne pas laisser le monopole de l'action sanitaire et diplomatique à la Chine, et qu'on voit qu'il y a un retrait américain d'Afrique, mais qui correspond à un retrait américain du monde en général, et que le président américain a eu des propos plutôt insultants pour l'Afrique, il n'a pas été là, et que cette crise a été une crise mondiale, et pour la première fois depuis 1945, les États-Unis n'ont pas été à la tête du combat dans cette lutte mondiale, et les Africains l'ont bien vu aussi. Donc il y a une redistribution des cartes en Afrique entre les différents acteurs, que la crise du Covid-19 là n'ont pas encore créé, mais qu'elle est venue accélérer de façon extrêmement forte. On voit bien quand même qu'il va être difficile pour les États-Unis de reprendre pied en Afrique après Donald Trump.
Vous êtes sur RFI, Hubert Védrine, vous constatez dans votre dernier livre et après, paru chez Fayard, qu'il est difficile à ce stade d'imaginer un monde à la fois plus technologique et plus humain, un monde compétitif mais plus coopératif, un monde plus interdépendant mais plus solidaire, une économie plus écologisée et plus équitable.
Oui, c'est les contradictions, déjà visibles avant, mais encore plus visibles maintenant, et qui devront être surmontées à tous les niveaux de décision. Il y a des niveaux individuels, il y a des niveaux collectifs, il y a des communes, des régions, des États, il y a l'Europe, etc. On le sait, je résume à la fin les contradictions que je décris dans ce petit essai. J'ajoute d'ailleurs que le titre « Et après » se termine par un point d'interrogation, parce que j'ai pas des réponses magiques. Hein. Je pose des questions pour alimenter ça. Je crois d'ailleurs que dans le monde va pas changer complètement. Ça n'arrive d'ailleurs jamais. Même après 1789, Tocqueville l'avait montré de façon lumineuse, il y a énormément d'évolutions profondes du pays qui ont continué, qui étaient déjà là avant. Mais rien ne sera exactement comme avant, mais pas tout de suite. Par exemple, on va peut-être revenir sur l'affaire du tourisme. Moi, je pense que le tourisme de masse ne peut pas continuer tel qu'il était avant. Il y aura des corrections d'une façon ou d'une autre. C'est un exemple. Il y aura des évolutions de la part des gens. Et puis, il y aura des évolutions de la part de décisions publiques ou des gouvernements ou alors des chefs d'entreprise. Donc, il y a un mélange. Et je pense que là, maintenant, on pourrait se dire, oui, mais ça redémarre comme avant parce que l'urgence, la panique, c'est de redémarrer parce que le risque du choc, du collapse économique est tellement monstrueux dans ses conséquences qu'il faut redémarrer, mais ça ne peut pas être exactement comme avant. Donc il n'y aura pas de retour à la normale, l'apostrophe. Mais les choses se verront en un an, deux ans, trois ans. Je suis convaincu qu'il y a une grande partie de l'activité économique mondiale qui ne sera pas exactement la même. Oui, on est un peu dans l'entre-deux, d'autant que la pandémie n'est pas finie en plus.
Bon, sans vouloir sortir la boule de cristal, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui, précisément, dans ces changements que vous voyez à moyen, long terme?
Alors, encore une fois, ça dépend d'où on parle, hein, comme disent les psy. Mais vous avez noté peut-être qu'en avril, sur la question redémarrage en tenant compte de l'écologie ou pas, il y a énormément de dirigeants économiques ou de groupements professionnels qui ont dit que c'est tellement grave qu'il faut se débarrasser de toutes les contraintes écologiques. Ça, c'est début avril. Très peu de temps après, Madame von der Leyen, à propos de son Green Deal, qui va d'ailleurs converger avec les plans de relance qui sont en train d'être négociés, elle a dit
La patronne de l'Union européenne.
Elle a dit, non, le climat est toujours là, puis le climat, c'est qu'une partie du sujet. Il y a la biodiversité, il y a d'ailleurs l'an prochain en Chine une réunion qui peut s'avérer très dure et très importante sur ce sujet. Beaucoup d'organisations professionnelles au niveau européen ont dit non, il faut évidemment continuer. Plusieurs grands patrons, même dans les domaines de l'énergie, alors que c'est très tentant pour eux de dire qu'il faut se débarrasser de ces contraintes qui sont compliquées, coûteuses, etc. Les plus intelligents d'entre eux, mais non, on continue. On est entré dans le processus moderne, scientifique, d'avenir, d'écologisation. Donc vous voyez, là, on est exactement au point de vue. C'est ça que je consacre à cet aspect-là. Je dis écologisation parce que c'est un processus dans la durée, alors que quand on dit écologie, c'est un terme statique. Écologisation, c'est une politique. Comme disait Clémenceau, je fais quoi ? La guerre. Bon, on va écologiser.
C'est finalement avoir l'écologie en permanence à l'esprit dans chacune des décisions qui devront être prises. C'est cela qu'il faut entendre, bien Védrine.
C'est ce que je préconise, c'est ce qui va se passer, à mon avis, dans tous les domaines, à des rythmes différents. Ça va donner lieu à des centaines de batailles variées sur le calendrier exact, taxe ou pas taxe, etc. Mais ça va être dans ce sens. Et je pense que les Européens sont assez bien placés pour se positionner dans ce processus, à condition de ne pas laisser l'écologie aux écologistes. Ils ont le droit d'exister, ils ont le droit de faire les scores naturellement dans les centres-villes. Les bobos modernes, écologistes, veulent vivre de façon cool dans les centres-villes. Bon, mais ce n'est pas du tout la réponse. Ce n'est pas eux qui vont inventer la batterie de l'avenir, vous voyez, ni comment réduire l'émission de CO2 par le numérique. Le numérique qui émet plus de CO2 que l'aviation. Alors, il n'y a pas de campagne venue de Suède sur arrêter le numérique. Donc on marche sur la tête, vous voyez. Comment faire en sorte qu'on invente des climatiseurs dont on ne peut plus se passer sans CO2? Ça, c'est des questions d'avenir, mais qui sont des questions scientifiques. Et donc si les Européens s'y mettent, ce qui fait disparaître aucune des questions géopolitiques. Hein. Mais s'ils s'y mettent, je pense qu'ils sont assez bien placés par rapport à ça.
Géopolitique, nous vous retrouvons, Hubert Védrine et Pascal Boniface, après le journal, à tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'après-pandémie. L'Europe va-t-elle se réveiller, travailler sur son manque d'unité, se montrer moins hésitante et affirmer sa position sur la scène internationale dans un contexte où la relation transatlantique est particulièrement mise à mal? Nous retrouvons nos invités. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, son dernier livre « Et après ?» qui vient de paraître aux éditions Fayard. Pascal Boniface, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques et enseignant à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8. Son dernier ouvrage, Géopolitique du Covid-19, ce que nous révèle la crise du coronavirus. Pascal Boniface, on a évoqué le rôle important qui est à attendre de l'Europe dans les années qui viennent. Il y a trois grands axes sur lesquels j'aimerais que vous nous donniez votre opinion et la façon dont vous voyez les choses. La première, c'est comment la France et l'Europe, menacées par le déclin économique et démographique, peuvent-elles se défendre face à la Chine, désormais superpuissance consciente de son rang? Comment la France et l'Europe aussi peuvent-elles se défendre face à la Russie, insatisfaite de l'ordre post-soviétique sur notre continent? Et comment la France et l'Europe peuvent-elles se défendre face aux États-Unis, Pascal Boniface?
Sur ces trois défis, par une seule réponse, c'est définir nos intérêts européens et ne pas calquer nos intérêts sur la politique américaine, comme c'est trop souvent le cas. Aussi bien par rapport à la Russie que par rapport à la Chine, eh bien, il y a une tentation chez certains de dire, bon, c'est les États-Unis les voient comme des rivaux. Et là, on voit bien dans le débat public la façon dont la Chine est de plus en plus diabolisée, parce qu'elle est diabolisée aux États-Unis et que par symétrie, nous suivons le même chemin. Non pas qu'il n'y ait pas de reproches à faire à la Chine sur le plan politique, sur le plan commercial, mais il faudrait d'abord définir un agenda européen et non pas un agenda qui est dupliqué sur un autre agenda. Et là, il y a quand même quelques progrès. Et d'ailleurs, je dois avouer que quand j'ai commencé la rédaction de ce livre en période de confinement, le chapitre que je réserve à l'Europe était au départ très critique et très pessimiste, et je l'ai fait évoluer en cours de route parce que autant la réponse européenne à la crise du Covid-19 a été cacophonique, mal structurée, repli sur soi au tout début, et qu'ensuite, après le plan franco-allemand, après le plan de la Commission européenne, on a vu une réponse concrète. Et Madame von der Leyen appelle, depuis qu'elle est rentrée en fonction, à l'établissement d'une commission géopolitique. Pour l'instant, concrètement, elle semble donner du corps à cette ambition. Et je crois que par rapport à la Chine, un moment important a été quand, l'an dernier, lors de la visite de Xi Jinping en Europe, Emmanuel Macron a reçu le président chinois tout d'abord seul, puis ensuite avec M. Juncker et Mme Merkel, pour bien montrer un front commun européen. Et donc il est important, par rapport à la marge chinoise, de montrer un front uni. Et je pense d'ailleurs que les Britanniques vont voir que, notamment sur le plan commercial, ils pèsent beaucoup moins seuls dans leurs négociations avec la Chine qu'ils ne pesaient avec la force de l'Union européenne. Et par rapport à la Russie, eh bien, on est toujours dans le même souci de sortir du piège des sanctions. Et on voit bien que la France tente d'intensifier un dialogue et elle n'est pas suivie par l'ensemble des partenaires européens. Quant aux États-Unis, votre troisième question, Marie-France, effectivement, on voit qu'il n'y a pas grand-chose à espérer de ce président, que pour le moment, on peut espérer ou entrevoir un changement tellement les sondages sont mauvais, mais il faut rester prudent, les sondages changent vite. Et puis Donald Trump est un fabuleux animal politique, il peut tout à fait rétablir la situation. Mais de toute façon, si Joe Biden était élu, il ne faut pas rêver d'un retour à la normale. Enfin, c'est-à-dire que la normale avec les États-Unis qui seraient multilatéralistes. Non, l'unilatéralisme fait partie de l'ADN stratégique américain. Donald Trump l'a poussé à la caricature, à l'extrême. Mais n'oublions jamais que lorsque la BNP est condamnée à 9 milliards d'amendes pour avoir commercé avec le Soudan en violation d'une loi américaine dont l'application est extraterritoriale, c'est Barack Obama qui est président.
Alors, vous parliez d'écologie, Hubert Védrine, et de nécessité d'une écologisation à l'avenir. On a vu le président américain Donald Trump sortir de l'accord sur le climat, et cette semaine, sortie définitive des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Et vous le dites dans votre ouvrage, parmi les urgences, il y a la nécessité de doter le monde d'un système d'alerte et de réaction immédiate vraiment performant face aux risques pandémiques, et cela passe par une Organisation mondiale de la santé réformée ou par un réseau mondial indépendant. Ce sera un travail compliqué.
Oui, parce que autant je suis méfiant par rapport à l'idée de gouvernance mondiale, en tout cas aujourd'hui, tant que l'Europe n'a pas réussi dans sa tête à se considérer comme une puissance en formation. Parce que s'il y avait un accord mondial aujourd'hui sur une gouvernance mondiale, ce serait un accord brutal et cynique sino-américain. Dans lequel les Européens émettraient des souhaits qui seraient balayés. Sauf si le processus dont on a quelques signes encourageants, je suis un peu plus prudent que Pascal, mais je suis globalement d'accord avec ce qu'il a dit, la nouvelle commission parle d'une autre façon que ce qu'on a entendu depuis longtemps. L'Europe, c'est un marché à l'origine. C'est un marché commun qui a été écrit sous la protection américaine, établi à la demande des Européens. Et dans la tête des Européens, non seulement des dirigeants, mais des peuples européens, ça fait 2 ou 3 générations que c'est comme ça maintenant. Donc si on peut avancer dans le sens qui est préconisé jusqu'à maintenant sans résultat par la France, d'une Europe puissance qui au moins se ferait respecter par la douzaine ou quinzaine de puissances énormes, moyennes ou petites qui lui marchent sur les pieds sans arrêt, bon, oui, très bien, très bien. Bon, on n'est qu'au début de ce processus. Alors je suis donc méfiant sur un schéma général pour le moment. En revanche, dans le domaine sanitaire, comme c'est quand même la première fois que l'humanité aura eu peur de la même chose en même temps, alors que même les guerres n'étaient pas tout à fait mondiales, vous voyez, et que les pandémies ont été plus localisées, alors que donc, je le répète, ça avait été annoncé par beaucoup de gens. Il va en rester quelque chose. Donc je pense que c'est pas impossible, même si Trump sort pour le moment de l'OMS, c'est conjoncturel, c'est Trump. C'est Gulliver qui considère que le multilatéralisme, c'est les lilliputiens. Donc il faut dégager tout ça parce que ça ne fait que gêner l'Amérique. C'est ce que pensaient d'ailleurs, à mon avis, tous les présidents américains, mais ils faisaient semblant. Mais même Clinton, il disait, quand il y a un problème, on essaie de le résoudre avec nos amis et nos alliés. Si ça marche pas, évidemment, on s'en occupe tout seul. Même Clinton, vous voyez. Donc faut pas idéaliser la pratique du multilatéralisme par les Américains. Donc dans ce tableau, je pense qu'il n'est pas impossible d'obtenir des progrès ponctuels. Et que, par exemple, on est vraiment un système d'alerte immédiat et de mobilisation internationale immédiate par rapport à d'autres virus. Parce que ce qui est terrible, c'est que les médecins se sont contredits sans arrêt, mais pas les virologues. Les virologues, ils disent tous, ça découle en grande partie du mode de vie contemporain. Surpopulation, développement, urbanisation, déforestation, et donc mise en présence de milieux naturels sauvages, plus les marchés, etc. Les virologues sont tous convaincus qu'il y aura d'autres phénomènes. Bon, donc il faut s'organiser mieux. Donc moi, je n'exclus pas que les États-Unis reviennent dans l'OMS et qu'il y ait un système d'alerte et dans lequel les Chinois, je suis moins indulgent sur la Chine, que les Chinois puissent pas freiner au début. Donc il peut y avoir des progrès. De même qu'en Chine, je l'ai déjà dit, mais je le redis tellement c'est important, il y a l'an prochain une COP biodiversité en Chine. Ça, c'est toute la question précisément de la déforestation, des trafics d'animaux sauvages. Et c'est un lien très très étroit avec la santé publique mondiale. Et je pense que la Chine se sentira obligée, elle dit sans arrêt qu'on la diabolise, mais ça suffit pas comme argumentation, parce qu'il y a aussi des reproches fondés, des inquiétudes justifiées. Et je pense qu'elle se sentira obligée de faire des choses intéressantes à ce moment-là. Alors, donc voilà, pas de gouvernance globale, autre que l'espèce de négociation permanente un peu chaotique, mais des progrès précis qui avanceront d'autant plus que les Européens arriveront à être d'accord entre eux.
Alors, inquiétude justifiée à l'égard de la Chine, je rebondis là-dessus, Pascal Boniface, est-ce que finalement cette question de la pandémie n'a pas ouvert un volet de méfiance à l'égard de Pékin, que vient corroborer aussi l'attitude de la Chine face à Hong Kong. Est-ce qu'on n'est pas entré dans quelque chose d'un peu nouveau ?
Oui, enfin, face à Hong Kong, on pourrait aussi parler de la répression des Ouïghours, qui est quand même largement documentée, et de facteurs qui existaient avant la crise du Covid-19, puisque la loi sur l'extradition qui a provoqué la révolte à Hong Kong voulait être prise par Mme Carrie Lam, la gouverneure de Hong Kong, qui est un peu en appui de la Chine, avant la crise du Covid-19, et la répression des Ouïghours est aussi antérieure à la crise du Covid-19, et La Chine est déjà le premier partenaire commercial de plus de 100 pays dans le monde. Et puis tout d'un coup, une fois encore, du fait de l'attrition américaine, du fait de la désertion américaine, on a vu que la Chine était partout. Et c'est un peu, c'est comme si vous mettez un papier dans un bac de révélateur, tout d'un coup les choses apparaissent. Elles existaient auparavant, mais elles n'étaient pas visibles. Et je pense qu'il y a eu plus la prise en compte de la montée en puissance de la Chine pendant cette crise qu'une véritable montée en puissance. La montée en puissance, elle existe depuis 30 ans, elle s'est accélérée depuis 20 ans. Certains espéraient au départ que la crise du Covid-19 vienne mettre à mal l'ascension de la Chine. Elle a repris son cours et surtout, elle fait toujours la différence avec les autres. Mais disons que ce moment Covid-19, c'est un peu comme il y a eu un moment Spoutnik où tout d'un coup, les Américains ont réalisé que les Soviétiques n'étaient pas si en retard que cela dans la course aux armements et la course à l'espace. Et ils auraient dû s'en douter. Et là, moi, je pense qu'il y a un moment Covid-19 parce que la montée en puissance de la Chine, qui pourtant existait auparavant, est devenue d'une limpidité cristallienne et que plus personne ne peut désormais l'ignorer.
Hubert Védrine.
Je voudrais ajouter à ce qu'a dit Pascal Boniface qu'on a affaire à une Chine qui est celle de Xi Jinping, qui n'est pas celle de Deng Xiaoping.
Son prédécesseur.
Deng Xiaoping, c'est l'homme qui a changé le monde. Qu'est-ce qui a changé le monde dans lequel on vit? C'est les gens de la Silicon Valley et c'est Deng Xiaoping. Et lui, il disait, on va avancer, mais prudemment, sans provocation. On va sauter d'une pierre à l'autre, etc. Et on attendra notre heure. Et Xi Jinping, il dit, notre heure est arrivée. Et on a affaire à un nationalisme chinois, très clair. On est habitué de la part d'autres pays, mais avant c'était un peu masqué, avec toujours l'idée des Chinois de prendre une revanche définitive sur les traités inégaux, la guerre de l'opium et compagnie. Donc il y a un risque. Il y a un risque, y compris en mer de Chine, et peut-être même par rapport à Taïwan, un vrai risque. Mais après j'ajouterais que ça dépend des autres aussi. Donc ça dépend de ce que la Chine va trouver en face d'elle. Alors si c'est simplement une propagande anti-chinoise, simpliste, facile à démonter par eux, mais si c'est une sorte de référence commune entre le Japon, Taïwan évidemment, mais l'Australie, l'Inde, peut-être la Russie, ça fait tout le jeu dont on parlait Pascal, on n'a pas du tout intérêt à ce que la Russie soit complètement englobée dans le jeu chinois, donc il faut un peu changer notre vision là-dessus. Les Européens, s'ils arrivent à refaire leur unité pour dialoguer avec la Chine, pas la moitié des Européens, mais l'ensemble, bon, les États-Unis, à ce moment-là, les Chinois qui sont pas harcelés chaque jour dans le gouvernement par des phénomènes d'opinion frénétique comme on a dans les démocraties, qui sont des sortes d'ingénieurs de la décision politique, ils prendront en compte le fait que ça a peut-être plus d'inconvénients que d'avantages de continuer d'une façon trop à l'ancienne. Nationalisme, colonialisme, rapport de force fait accompli, vous voyez. Donc ça dépend un peu des autres, au-delà de l'interrogation qu'on peut développer sur qu'est-ce qu'ils veulent vraiment.
Alors, sur Hong Kong, on a vu les Américains riposter, les Canadiens aussi. Pascal Boniface, l'Europe, elle semble plutôt unie face à la Chine, mais très frileuse dès qu'il s'agit d'imaginer une riposte.
De déclaration.
Oui.
Quelles sont les réactions américaines ou canadiennes? Sont des déclarations, effectivement. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Et même si, par exemple, les États-Unis modifient le statut de Hong Kong, c'est les gens de Hong Kong qui vont payer le prix, pas du tout Pékin. Et je crois que par rapport à ce que vient de dire Hubert, il y a quelque chose de très important. Il y a deux façons de critiquer la Chine. Pour ce qu'elle est ou pour ce qu'elle fait. Et effectivement, si on fait une critique globale de la Chine parce qu'elle monte en puissance, le régime chinois aura vite fait de solidifier la population autour de lui en disant « Regardez, une fois encore, les Occidentaux nous refusent et refusent que l'on puisse monter en puissance. » Si l'on fait des reproches très concrets à la Chine sur les Ouïghours, sur la situation de Hong Kong, ça sera plus facile. Et donc, il faut que les reproches qui soient faits à la Chine soient des reproches très précis et non pas globaux. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la Chine, elle est plus chinoise que communiste. Le Parti communiste, c'est une référence. Mais les gens qui sont au Parti communiste chinois, c'est pas pour étudier la pensée de Mao Tse-Tung ou le matérialisme dialectique. C'est pour faire des affaires et être dans le cercle du pouvoir. Et le ressort sur lequel joue Xi Jinping, c'est bien le ressort du nationalisme. Donc il faut faire très attention de ne pas le stimuler en faisant une critique qui peut être une critique globale de la Chine en tant que telle, qui donne le sentiment que l'on refuse sa montée en puissance. Ce que l'on doit refuser, c'est la façon dont elle utilise partiellement cette montée en puissance.
Quelques mots sur la France, Hubert Védrine. Est-ce que la Covid-19 n'apparaît pas aujourd'hui comme le miroir du déclassement français qui, à cette occasion de la pandémie, a accumulé plusieurs crises?
Il y a la gestion de la crise par la France, mais ça, je pense qu'il faudra faire une évaluation sérieuse quand ce sera fini, de la façon dont les différents pays dans le monde ont géré l'alerte, le confinement, le déconfinement, le vaccin, s'il y en a un jour, c'est pas sûr. En tout cas, les thérapies, bon, c'est trop tôt par rapport à ça. Mais la notion de crash test s'applique aussi. Par exemple, le fonctionnement de l'État, il y a eu des moments ubuesques dans le fonctionnement de la bureaucratie, des moments shadow, il faut comprendre pourquoi. Mais dans l'affaire des masques, que vous avez certainement en tête en posant la question, dites-vous bien que s'il y a quelques années, au ministère de la Santé, des gens avaient dit « c'est imprudent de ne plus avoir aucune réserve ». Et on va s'appuyer sur le marché mondial. Il suffira d'envoyer un mail en Chine pour avoir les masques. Si des gens avaient dit par rapport à ça, c'est imprudent de dépendre que du marché mondial et que d'un fournisseur, qu'est-ce qu'il aurait eu comme réaction? On lui aurait dit, tu es un crétin, archaïque, souverainiste, le pénis, blablabla, blablabla. Donc, il y a toute une espèce d'époque, mais qui n'est pas que française. Et les Européens se sont engouffrés dans la mondialisation, sans mener le double jeu des Américains par rapport à ça. Je pense que la France s'en est plutôt, c'était pas si mal géré que ça, ça dépend des sujets, il faut pas exagérer, que l'évaluation sera très utile le moment venu, et qu'en réalité, il y a que 5 ou 6 pays dans le monde, parce qu'ils avaient intégré les leçons du SRAS, où ils avaient pensé à Ebola, qui avaient pris les précautions nécessaires.
Taïwan, la Corée du Sud, le Japon.
Le Singapour au début, mais aussi certains lenders allemands, l'Autriche, l'Islande, Israël, c'était pas mal géré aussi. Bon. Il y a moins de 10 pays qui ont vraiment bien géré le truc. Et faut pas s'acharner sur la France, et ça n'a pas d'intérêt parce qu'il
non,
faut
c'est juste mettre quelques mots.
Ben voilà, ben c'est ma réponse, c'est ma préconisation. Il faut comprendre ce qui a marché ou pas marché, et d'autant qu'on est maintenant dans la phase qui a été évoquée tout à l'heure, qui est qu'il y a une proposition quand même franco-allemande, devenue européenne, sur laquelle je pense qu'il y aura un compromis dans les prochaines semaines. C'est un plan de relance important. Je pense qu'il y aura une synthèse avec le Green Deal de Madame von der Leyen, la présidente de la Commission, et que ça, c'est plutôt bien. Il ne faut pas l'interpréter comme étant une conversion de l'Allemagne à une Europe fédérale. Ça, c'est complètement faux. Et d'ailleurs, Madame Merkel a très bien dit « je fais ça dans l'intérêt de l'Allemagne », parce que l'Allemagne ne peut pas prendre le risque de l'effondrement de l'économie de ses partenaires. La zone euro a commencé par l'Italie du Nord, parce que l'Allemagne fait l'essentiel de son excédent sur les autres Européens. Donc, c'est bien ce qui se passe, c'est intéressant, il faut souhaiter un bon aboutissement. Et au global, je pense que le jugement sur la façon dont l'Europe s'est comportée doit être équilibré et mesuré. Plus ce qu'on a dit tous les trois sur le fait que la nouvelle Commission essaye de prendre la question du poids de l'Europe dans le monde à bras-le-corps. C'était la première fois. Il n'y avait pas de mandat dans ce sens avant. C'est pas dans l'ADN de l'Europe, mais il faut se forcer là.
Pascal Boniface, en guise de conclusion, il nous reste un peu moins de 3 minutes. Comment réussir la sortie de crise? Est-ce qu'un monde plus brutal encore peut émerger de cette crise de la pandémie du coronavirus?
Alors beaucoup disent que l'on va tirer les leçons et qu'on va aller vers un monde meilleur. Les deux dernières crises que l'on a vécues, le 11 septembre et la crise financière de 2008-2009, ne permettent pas d'aller vers un tel optimisme. Après 2001, George Bush, dans un premier temps, s'est dit « mais pourquoi on nous haït alors que nous sommes si bons ?» Et sa réponse a été la guerre d'Irak. Pas franchement une très bonne réponse. Après 2008-2009, on a tous dit « ah, il faut arrêter avec les paradis fiscaux » et j'ai pas l'impression que la guerre contre les paradis fiscaux ait été réellement gagnée. Et là, on va faire de la prévention, mais comme Hubert l'a dit au début de son intervention, tout existait, les livres blancs, la CIA, et on n'a pas tenu compte. Et quand on a fait de la prévention, rappelez-vous, tous les bordereaux d'injures et d'insultes que Roselyne Bachelot a reçus parce qu'elle avait pris trop de tests et trop de vaccins. Donc il y a effectivement la prévention n'est jamais tout à fait acceptée, et c'est peut-être ça sur quoi on doit réfléchir. Comment penser un peu le long terme? Comment penser vraiment une véritable politique de prévention? Comment faire en sorte que les scénarios extrêmes ne soient pas écartés parce qu'ils sont mal commodes? Et puis surtout, peut-être aussi, penser qu'on n'est pas au-dessus des autres et donc avoir la modestie de réaliser que les crises qui arrivent ailleurs peuvent aussi survenir chez nous.
Hubert Védrine.
Moi, je note que les praticiens de la mondialisation, que ce soit sous l'aspect économique ou sous l'aspect négociation générale, sont plus positifs et plus engagés dans les changements que les théoriciens de la mondialisation. Si vous lisez les articles, les tribunes libres, et si vous écoutez les débats, on a l'impression qu'on tourne en rond et qu'en effet, Pascal a raison de nous ramener aux crises précédentes, il n'est pas sorti grand-chose. Là, je crois que c'est différent. Les praticiens, les grands décideurs économiques, les grands investisseurs, ils sont déjà engagés dans les processus de mutation. Alors, c'est pas le changement complet, je l'ai dit tout à l'heure, mais je crois qu'on est plus avancé déjà dans une sorte de métamorphose des activités humaines qu'on ne le croit. Et il ne faut pas se tromper de combat, y compris en matière d'énergie et d'écologie, par exemple. Je prends un exemple provocant. On ne peut pas se passer du nucléaire tant qu'on n'a pas mis au point un système de batterie permettant de garder l'énergie solaire presque éternellement. Et on ne devrait plus jamais fermer une centrale si on ne peut pas démontrer que ça ne va pas entraîner la relance du CO2, ce qui a été fait en Allemagne il y a quelques années pour des raisons de démagogie électorale. Vous voyez, donc il y a plein de changements. Tous les jours, il y a des millions de gens dans le front, des chercheurs, des ingénieurs, qui inventent des trucs nouveaux. Donc ça, c'est pas la géopolitique, c'est le reste. Mais comme la géopolitique, la géoéconomie et la géoécologie sont liées, je suis prudemment positif.
Merci Hubert Védrine. Je rappelle que vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères. Votre dernier livre, Et après, point d'interrogation, qui vient de paraître aux éditions Fayard. Et Pascal Boniface, directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, enseignant à l'Institut d'Études Européennes de l'Université Paris 8. Et dernier ouvrage, Géopolitique du Covid-19, ce que nous révèle la crise du coronavirus, aux éditions Erol. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Yael Co et Nathalie Laporte. À samedi prochain.